Il est exactement 9h à Niamilima dans le Nord Kivu et même heure à Nyakasanza à Nitouri et 8h à Kinshasa, c'est l'heure de nous informer. Au micro, Blaise Shindani Kambala.
Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Acteurs nationaux et internationaux unis contre les mines antipersonnelles. C'est à ce titre que l'ambassade de la Belgique a réuni experts, diplomates, humanitaires et structures de protection pour une rencontre consacrée à un enjeu crucial, renforcer l'action contre les mines en RDC. Dans le cadre des préparatifs de la fête des Pâques, un afflux d'acheteurs s'observe depuis jeudi au marché central de Bounia à Nitouri. Les commerçants qui vendent des vêtements et chaussures pour enfants se réjouissent de cette affluence. Ce n'est pas le cas pour ceux qui vendent les articles pour adultes. Qu'en est-il de la relance de la société textile de Kisangani Sotexki annoncée par le gouvernement congolais? Le ministre de l'Industrie ad intérim, attendu pour répondre à une question orale avec débat, a finalement sollicité une reprogrammation évoquant des raisons familiales. Pour en parler, nous recevons dans ce journal l'initiateur de cette question orale, les députés nationaux élus de Kisangani, Théovel Lotika, qui rappelle l'importance du contrôle parlementaire. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. La journée internationale de sensibilisation à la lutte anti-mines est célébrée ce samedi 4 avril. À Kinshasa, la lutte contre les mines antipersonnelles revient au premier plan. Jeudi soir, l'ambassade de Belgique a réuni experts, diplomates, humanitaires et structures de protection pour une rencontre consacrée à un enjeu crucial, renforcer l'action contre les mines en RDC. Autour de la table, le Centre congolais de lutte anti-mines, des organisations internationales comme notamment UNMAS, CIRCER, Cluster Protection et plusieurs acteurs engagés. Objectif de cet échange, mobiliser davantage autour du thème 2026, investir dans la paix, investir dans la lutte contre les mines. Christian Makasinga nous fait vivre cette rencontre.
Dans la salle de réunion de l'ambassade de Belgique, gouvernement, experts, diplomates, humanitaires, tous réunis pour discuter d'une menace toujours bien réelle en RDC, les mines antipersonnelles. Emmanuel Okinu Omanga, coordonnateur du Centre congolais de lutte anti-mines, CCLAM.
La mission principale du Centre congolais de lutte anti-mines, c'est lutter contre les mines antipersonnelles, réduire l'impact environnemental, économique.
Mais sur le terrain, les défis restent immenses. Charles Félix, chargé des opérations de Dan Church Aid, les mines, conçues pour exploser au contact d'une personne, blesse, tue et reste active des années durant.
Nous avons environ 43 zones contaminées à la mine, alors que la contamination, elle est réelle. Et donc, il serait vraiment important pour nous de pouvoir avoir suffisamment de fonds.
Au-delà des chiffres, il y a des vies brisées. Parmi les participants, l'artiste Alèche, personnellement touché par ces fléaux, livre un témoignage fort.
J'ai une histoire personnelle avec la lutte des mines antipersonnelles que mon grand frère, il s'appelait Patrick Tiruissa, décédé le 1er septembre 2008 dans un crash d'avion. Et ben, il travaillait pour Handicap International. Mon message, il s'adresserait un peu plus aux autorités congolaises d'accorder une attention un peu particulière et d'accorder des subventions conséquentes aux organisations qui travaillent dans ce domaine-là.
C'est 4 avril, le message est clair, derrière chaque mine, il y a une vie en danger. Investir dans la paix, c'est aussi investir dans les déminages.
Dans le même registre, à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement en Ituri, les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre continuent de représenter une grave menace pour les populations civiles. Ces engins affectent la sécurité, limitent l'accès aux terres agricoles et aux infrastructures et freinent le retour des personnes déplacées. C'est ce qu'indique le service de lutte anti-mines des Nations Unies, UNMAS, qui affirme avoir recensé 357 zones contaminées à travers le pays. Isaac Remoyope, reportage.
La situation des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre demeure préoccupante en RDC. Au total, 357 zones contaminées ont été identifiées, principalement dans l'est du pays, à raison de l'activisme des groupes armés affrontant les FARDC. À Ituri, la découverte d'engins explosifs est devenue fréquente, notamment dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, environ 25 engins ont déjà été neutralisés depuis le début de l'année 2026. D'autres engins restent toutefois présents dans des zones difficiles d'accès en raison des opérations militaires en cours, notamment à Jiba, Fataki et Boulé. Leur destruction est attendue par les équipes du service de lutte antimine des Nations Unies et leurs partenaires. Selon cette agence onusienne, ces engins continuent de menacer la sécurité des populations, d'entraver l'accès aux terres agricoles et aux infrastructures et de ralentir les retours des déplacés. Face à cette situation, les Nations Unies intensifient les actions de sensibilisation pour alerter les communautés aux dangers liés à ces explosifs. Elles insistent également sur l'importance de la prévention, de la réduction des risques et du renforcement de la prise en charge nationale. Investir dans la lutte anti-mine, conclut l'agence, c'est protéger les civils, favoriser la reconstruction et contribuer à une paix durable. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ces temps, l'Union européenne a officiellement suspendu son assistance financière de 20 millions d'euros destinée aux forces de défense rwandaises, RDF, opérant dans la province du Cabo Delgado au Mozambique. C'est une mesure qui intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les accusations de soutien rwandais aux rebelles de M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Elache Mbalukomba.
Cette suspension intervient en dépit des avis contraires de plusieurs États membres, tels que la France, le Portugal et l'Italie, qui souhaitaient poursuivre l'aide pour ne pas affaiblir les opérations antiterroristes au Mozambique. L'implication directe des RDF aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC a rendu ses soutiens indéfendables au sein des instances européennes. De nombreux observateurs y voient une décision de cohérence de la part de l'Union européenne, alors que les rapports de l'Organisation des Nations Unies confirment régulièrement le soutien de Kigali au mouvement déstabilisateur en RDC. Financer les troupes rwandaises, même ailleurs, aurait envoyé un message contradictoire. Cette mesure s'ajoute à la pression internationale sur le Rwanda pour qu'il cesse ses activités militaires en RDC. Signalons que Kigali n'a pas encore officiellement réagi. Ses désaveux financiers soulignent l'isolement diplomatique du Rwanda face à la crise sécuritaire dans les Grands Lacs et marquent une victoire diplomatique pour Kinshasa qui demande des sanctions contre les régimes de Paul Kagame pour sa guerre d'agression contre la RDC.
Dans la ville de Kisangani, les habitants du bloc Paradis au quartier Plateau Boyoma dans la commune Makiso ont vécu une nuit de cauchemar entre 1h et 2h du matin ce vendredi 3 avril. Le sommeil des résidents a été brutalement interrompu par des détonations d'armes à feu. Un groupe de bandits armés a pris d'assaut le quartier opérant avec une violence inouïe. Au total, plus de 20 maisons ont été cambriolées. C'est un papier de Jacques Moukonkole, rendu par Jude Mister Bilanda.
Le mode opératoire est resté le même. Les assaillants ont forcé les portes pour s'introduire dans les habitations. Argent liquide, téléphone portable et autres biens de valeur ont été emportés. Mais le bilan est aussi humain. Au cours de l'attaque, deux garçons d'une même famille ont été blessés par balle. Ils ont dû être évacués en urgence vers une formation médicale de la ville pour des soins appropriés. Une fois de plus, l'intervention de la police est pointée du doigt. Les forces de l'ordre ne sont arrivées sur les lieux qu'à 3h du matin, alors que les malfrats s'étaient déjà volatilisés avec leur butin. Face à cette montée de l'insécurité, les bourgmestres de la Makiso tentent de rassurer. Simon Louawa affirme que les commandants de la police prennent actuellement des mesures pour éradiquer ces groupes de malfaiteurs. En attendant, l'autorité communale exhorte ses administrés à la vigilance et à garder confiance envers ces institutions.
Retour en Ituri. La chefferie de Banyalichabi, considérée comme l'une des premières entités touchées par les exactions des rebelles ADF dans les territoires d'Irumu, reprend progressivement sa vie socio-économique. Cette amélioration fait suite à une accalmie observée depuis le mois de novembre 2025. Cependant, malgré ses énormes potentialités agricoles et forestières, cette entité coutumière reste enclavée et confrontée à de nombreuses difficultés de développement. Martial Kiza Biamungu, de retour de la région, nous propose la carte postale de la chefferie
de Banyali Tchabi.
Située au sud du territoire d'Irumu, la chefferie de Banyali Tchabi comprend 3 groupements avec un total de 28 villages. Elle fait face à l'Ouganda dont il est séparé par la rivière Semouliki. Cette entité s'étend sur une superficie d'environ 312 km² et composée de près de 30 000 habitants. Les principales activités de population Nyali Tchabi restent l'agriculture, l'exploitation du bois et la chasse. Depuis 2020, cette entité voisine du parc national de Virunga a été le théâtre de violentes attaques de rebelles des ZADF, causant de nombreuses pertes en vies humaines et des déplacements massifs des populations. Des écoles, des églises, des centres de santé et des habitations ont été détruits ou incendiés. 6 ans plus tard, grâce à la calmie observée depuis plusieurs mois, plus de 80% des populations déplacées ont regagné leur village et tentent de reconstruire leur vie. Cependant, les défis restent nombreux. L'intégration des retournés et la résilience des communautés demeurent fragiles. Malgré ces difficultés, les habitants gardent l'espoir d'un retour à la paix et d'un développement effectif de leur entité. Du retour des Tchabi, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le disais en titre, un afflux d'acheteurs s'observe depuis jeudi au marché central de Bunyani-Touri à la veille de la fête de Pâques. Certains commerçants, notamment ceux qui vendent des vêtements et des chaussures pour enfants, se réjouissent de cette affluence. En revanche, les vendeurs d'articles pour adultes peinent encore à écouler leurs marchandises, même si l'espoir reste permis à quelques heures de la fête. Reportage de Laetitia Viacuno.
Depuis jeudi matin au cœur de Bounia, l'ambiance est particulièrement animée à l'approche de la fête de Pâques. Dans les allées du marché central, les échanges entre vendeurs et clients se multiplient dans une atmosphère conviviale. Les étalages et les boutiques sont bien approvisionnés, notamment en denrées alimentaires comme le riz et l'huile, mais aussi en vêtements soigneusement sélectionnés pour répondre à la demande liée à cette période festive. De nombreux parents tiennent à offrir de nouvelles tenues à leurs enfants, estimant que leur bonheur reste une priorité en cette période de célébration. Laetitia Machuzi.
En tout cas, nous faisons nos mieux pour que nos enfants et nous-mêmes puissent fêter très bien. Nous sommes venus acheter les habits, les souliers pour les enfants et nous-mêmes.
Cependant, les vêtements pour adultes sont moins demandés, regrette une commerçante du marché central qui espérait réaliser de bonnes ventes à l'occasion de Pâques. Janine Ndovia Kaloumé.
Les périodes, ça fait, c'est difficile, hein, parce que là, vraiment, on voit qu'il y a des calvaires. Les papas n'achètent pas, des mamans n'achètent pas. On est en train de chercher seulement pour les petits-enfants. Espérons que Dieu fera grâce.
La plupart de commerçants ont renouvelé leur stock en prévision de la fête dans cette province où environ 80% de la population est de confession chrétienne. Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale. Ici, la vente des chikwangs par des enfants dans les rues prend une tournure préoccupante. Derrière les bassins portés à bout de bras, de plus en plus des mineurs s'improvisent vendeurs ambulants, exposés au danger de la circulation et à l'insécurité au détriment de leur scolarité et de leur bien-être. Une situation qui suscite des réactions, notamment de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves Lisadel. Notre reporter Magloire Landou Maemba a observé ces phénomènes à Kapela dans la commune de Kalamu et sur l'avenue Inga à Bandalungwa. Voici son reportage.
Sur les artères très fréquentées de Kapela et Dinga, les bassins des chikwangs circulent entre véhicules et passants. Parmi les vendeurs, des adultes mais aussi des enfants parfois très jeunes. Certains expliquent leur présence par les difficultés familiales et à la nécessité de contribuer aux revenus du ménage. Quelques passants expriment leur inquiétude.
Que c'est l'irresponsabilité de parents. Les enfants se trouvent à la rue en train de vendre. Dirais à l'État congolais de vraiment s'occuper de ce genre de cas parce qu'ils sont exposés. Hein.
Nous avons mal en voyant ces enfants vendre à des heures tardives. Exposés sur la chaussée, les met en danger. À leur âge, leur place n'est pas dans la rue, mais à l'école.
De son côté, la Lisadel engagée dans la protection de l'enfant estime que la vente occasionnée n'est pas problématique si elle ne compromet pas la scolarité. Mais elle devient préoccupante lorsqu'elle se transforme en exploitation. Godé Kayembe, coordonnateur national de cette structure.
L'État congolais a mis en œuvre la protection de l'enfant en ce qui concerne la gratuité et l'accès des enfants à l'école. Si ces enfants vont à l'école et qu'ils, dans l'après-midi, se retrouvent en train de vendre pour soutenir le revenu familial, ce n'est pas une faute. Ce qui est faute, c'est lorsqu'il s'agit d'une exception et l'État doit pouvoir le condamner.
La Lisadel appelle les autorités à s'impliquer pour mettre fin à ce phénomène.
Politique à présent, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, ECOFIN et CB, à l'Assemblée nationale examine deux projets de loi du gouvernement, l'un sur l'enjeu d'argent, l'autre sur les marchés boursiers. Les députés membres de la commission ont en effet auditionné ce mercredi le ministre des Finances Doudou Fouamba sur le contour de ces différents textes jugés recevables en plénière. Objectif, mieux mobiliser les recettes publiques tout en encadrant un secteur à risque, mais aussi combler le vide juridique qui freine la circulation des capitaux en RDC. Guy Mafuta Kabongo, président de la commission ECOFIN, revient sur les enjeux de ces réformes dans cet extrait choisi par Gast Hamzati Matsanzi.
Dans le secteur du jeu d'argent, un secteur qui connaît une affluence importante, il y a un potentiel important en termes de mobilisation des recettes. À côté de ce potentiel, il y a également des grands dangers auxquels la population est exposée. Je citerai ici, par exemple, l'addiction au jeu, la protection des mineurs et également le blanchiment d'argent, qui sont des faits et qui entachent réellement ce genre de secteur. Et donc, il était important pour le gouvernement de légiférer là-dessus, de mettre en place un cadre légal et sécurisé pour permettre à ce que l'autorisation, qui est une exception dans ce domaine-là, soit encadrée par des mesures d'accompagnement. Et également, l'objectif avec que le projet de loi du marché boursier, c'est notamment faciliter la circulation des capitaux. Il est inconcevable qu'un pays aussi important, aussi énorme qu'est le Congo puisse manquer, n'est-ce pas, un cadre légal qui organise le marché boursier. Dans toutes les deux hypothèses, il était important qu'il y ait une législation là-dessus et surtout mettre en place une autorité de régulation qui va encadrer pareille activité.
La présentation officielle de la bande dessinée nommée Papa Célé, champion de la planification familiale, a été procédée ce vendredi 3 avril au centre Carter de Kinshasa par l'Association de promotion et de défense des droits économiques, sociaux et culturels, Mouvement Alerte ONGDH, réalisé dans le cadre de la sensibilisation sur la santé de la reproduction. Les détails avec Jean-René Kabamba.
Pour les organisateurs, la bande dessinée Papa Célé constitue un outil stratégique d'éducation communautaire capable de toucher un large public et de susciter une prise de conscience sur l'importance de la planification familiale. Mêlant texte et images, cette bande dessinée vise la transformation des normes sociales afin de briser les tabous autour de la planification familiale et des questions liées à la grossesse, a déclaré Madame Anita Chilanda, coordonnatrice du mouvement Alerte ONGDH.
Dans notre société, quand on parle de planification familiale, on voit les contraceptions alors que ce n'est pas un péché. Nous voulons donner un message parce que aujourd'hui, à peu près 30 à 40% de la population jeune sont activement dans la vie sexuelle. Donc c'est-à-dire que la sexualité commence un peu plus tôt. Alors qu'on se retrouve avec des jeunes filles, avec des garçons qui ont 17 ans, 16 ans, qui ont déjà engrossé.
Cet échange a également été l'occasion pour les participants de mieux comprendre la signification du protocole de Maputo, qui protège les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, une norme africaine ratifiée par la RDC depuis 2008. Présent à cette activité, Baudouin Kipaka, magistrat à la Cour de cassation, a lancé un message fort aux jeunes pour prévenir les grossesses non désirées. Notons qu'à travers cette bande dessinée, la planification familiale sort du silence, entre dans les foyers et rappelle que s'informer, c'est déjà se protéger.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. Près de 2,4 millions de travailleurs philippins sont au Moyen-Orient et se retrouvent en première ligne du conflit. Au moins une ressortissante est morte et deux autres expatriés ont été blessés depuis le début de la guerre. Plusieurs ONG et organisations syndicales appellent le gouvernement philippin à mieux les protéger.
L'invité.
Qu'en est-il de la relance de la société textile de Kisangani, Soteski, annoncée par le gouvernement congolais? La question était au cœur d'une interpellation ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Industrie ad intérim attendu pour répondre à une question orale avec débat du député Théovel Lotika a finalement sollicité une reprogrammation évoquant des raisons familiales, une situation qui suscite des réactions. L'élu de Kisangani rappelle l'importance du contrôle parlementaire et insiste sur les devoirs de redevabilité des membres du gouvernement envers la population. Il s'entretient avec Grâce Hamzati Masanzi.
Théophile Otika, bonjour.
Bonjour, Grâce.
Vous êtes l'auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de l'Industrie sur la relance de la société textile de Kisangani Soteski. Qu'est-ce que voulez-vous savoir justement de ces sociétés en posant votre question?
Il y a lieu de savoir ici que la grande société textile de Kisangani est en perte de vitesse, il faut le dire. Parce que ça fait un moment qu'elle ne produit plus le tissu comme elle le produisait à son temps. Et il faut savoir aussi que cette société est pour nous, hein, nous de la province orientale, de l'espace grand oriental, comme c'est comme notre Miba qui se trouve au Kasaï, c'est comme notre Jekamine qui, à son temps, s'est trouvé dans les grands Katanga. Donc c'est une grande société, c'est une société d'importance très capitale pour non seulement les Tchopolais ou non seulement le peuple de l'espace grand oriental, mais pour tous les Congolais. Mais malheureusement, nous avons constaté que ça fait deux fois aujourd'hui, nous appelons les ministres pour venir rendre compte de la gestion de cette entreprise. À chaque fois que nous l'invitons, il évoque des raisons. Et cette fois-ci aussi, il vient d'évoquer une raison, quoique on peut comprendre, mais ça paraît quand même louche. Mais qu'à cela ne tienne, sachez que l'État congolais a accepté de financer la relance de cette société en termes de plus de 17 millions de dollars. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État congolais a déjà avancé, a déjà donné une somme de 7 millions de dollars, mais rien n'échange dans cette société. De telle enceinte qu'aujourd'hui, il n'y a même pas la lumière dans l'enceinte de cette société. Comme pour dire qu'ils sont incapables même de payer les factures de la SNEL. Donc, on se demande qu'est-ce que cette somme donnée par l'État à titre d'avance a déjà fait. C'est tout ce qu'on voulait savoir du ministre. Mais bon, comme il vient de s'expliquer, comme il vient de présenter une raison de deuil, nous comprenons, mais nous n'allons pas lâcher. Nous allons mettre la pression au bureau parce que c'est de notre droit. Nous sommes venus faire ça. Nous sommes venus contrôler l'exécutif. Donc nous allons tout faire pour que le bureau, comme lui-même a dit, le bureau puisse reprogrammer jusqu'à ce qu'il viendra répondre. Auquel cas nous allons conclure que c'est de l'outrage à l'Assemblée nationale et l'article 183 de notre règlement intérieur est clair quant à ça.
N'est-ce pas, l'actuel ministre n'est fait que l'intérim?
Il y a un principe de droit qui est clair là-dessus. C'est le principe de continuité des services publics de l'État. N'est-ce pas? Et s'il estime que c'est ça l'argument, mais il n'a qu'à venir dire que moi je suis intérimaire, je ne viendrai pas, ou je ne suis pas en mesure de répondre. Mais de toutes les façons, il y a aussi des gens qui disent ici, partout, que l'État n'est pas mort. L'État fonctionne. Vous voyez? Ce ministère fonctionne. C'est toute une institution. Ce n'est pas la personne du ministre. Un ministère, c'est une institution qui doit répondre, qui doit fonctionner correctement. Si tel est l'argument, en tout cas, il n'a qu'à venir nous dire que non, en tout cas, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans toute cette décorrespondance, il n'a jamais évoqué cet aspect des choses.
Alors, vous êtes député de l'Union Sacrée. Que répondez-vous à ceux qui disent, à ceux qui pensent que les membres du gouvernement seraient couverts par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les contrôles parlementaires?
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que nous sommes en train de couvrir nos membres de l'Union Sacrée qui sont dans le gouvernement? Pas du tout. Nous sommes en train de faire notre travail, mais en tout cas, ce que nous demandons, ici, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Le gouvernement doit faire son travail, il doit rendre compte. Nous aussi, élus, nous devons travailler et parce que la population nous attend, la population nous regarde, la population nous observe.
Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui? La Sotexki emploie combien de Congolais et surtout, si une fois elle est relancée, quel pourrait être son impact dans la région?
Lorsque nous insistons sur la Sotexki, sur sa relance, c'est parce que, imaginez-vous, à son temps, la Sotexki employait plus de 3000 travailleurs. Et donc, plus de 3000 ménages vivaient directement de la Sotexki. Donc, c'est plus de 10000 personnes de manière directe qui seront bénéficiaires et de milliers d'autres personnes qui seront bénéficiaires indirectement. Vous voyez? À Mahagi, par exemple, il y a plus de 35 000 femmes qui travaillaient dans les plantations de coton et qui vendaient ces cotons à la Sotexki. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas, elle commence plutôt à vendre à une société qui est à 7 km de Mahagi, donc ça dit que de l'autre côté de la frontière, donc en Ouganda, ces mamans-là commencent à vendre à cette société ougandaise. Vous voyez déjà que c'est tellement grave, donc ça dit que cette société, elle est importante, nous ne pouvons pas accepter de la voir disparaître de cette façon-là.
Théophile Lotika, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était notre invité, le député national Théophile Lotika, qui s'entretenait avec Grace Hamzati Masanzi. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal du matin, préparé pour vous par Jude Mystère Bilan Dankoumar et mis en onde par Alain Goy.